Alors, Marie-France, il y a à peu près, au total, 940 candidats-candidates. C'est ça, au total?
Non, un petit peu moins.
Un petit peu moins
puisque,
que ça?
Puisqu'il y aura 237 femmes candidates et 263 hommes.
Ah oui?
Donc, fais-moi le calcul rapide, t'es
ben
bon
oui.
Là-dedans. En tout cas, ce sont les chiffres qu'on a pour l'instant.
Mais la parité n'est pas encore réalisée.
Pas encore, mais ça s'arrange parce que, tu vois, habituellement, on était en dessous de 30 % et là, on va être à peu près à 40 % de candidatures féminines. C'est du jamais vu, ce qui est une bonne nouvelle. Et ça, c'est tout parti confondu. Hein. Vraiment, Québec solidaire et la CAQ sont ceux qui ont plus de la moitié de candidatures féminines. Pour la CAQ, c'est un peu étonnant parce que l'électorat était plutôt masculin. Donc, on va chercher peut-être des femmes aussi pour plaire aux femmes. On vient de franchir, en tout cas, un point de non-retour sur le nombre, sur la ligne de départ. Maintenant, il va falloir que les femmes n'aient pas que des circonscriptions bidons, qu'on constate que ce ne sont pas seulement des circonscriptions casse-gueule, mais où elles auraient la chance de se faire élire. Et on est en voie d'y arriver. Tu as le chiffre exact?
Oui, 940.
940.
Au total.
Au total, oui.
Au total, pour 125 circonscriptions, tous les partis là,
oui.
Regroupés. Et évidemment, je t'avais envoyé le tableau là,
oui.
Dans la répartition hommes-femmes.
Par tranche d'âge.
Par tranche d'âge.
Ça, c'est très intéressant.
Ça varie beaucoup. Ça
varie beaucoup. Ce sont les jeunes femmes. Étonnamment, tu déteins sur moi, j'ai fait les statistiques. Et chez les jeunes femmes, chez les 19-29 qui se présentent comme candidates, elles sont 43 % et c'est le groupe d'âge le plus touché, donc, par la parité féminine.
Oui. Alors, ça nous indique
oui.
quoi, ça?
Est-ce
que ça veut dire
indique...
que le parti qui prendra le pouvoir, majoritaire ou minoritaire, peut-être, on ne sait
voilà.
pas. Est-ce que ça veut dire qu'on aura une répartition, une parité au Conseil des ministres?
Bien, il va falloir. Il va falloir parce que vraiment, c'est l'autre seuil à atteindre et tous les gouvernements, aussi bien au provincial qu'au fédéral, on a vu Justin Trudeau parler de son cabinet féministe. C'est vraiment la grande tendance en Occident d'avoir autant d'hommes que de femmes et que la compétence soit égale et aussi. C'est vraiment devenu le nouvel impératif. Et ce qui est intéressant à voir aussi, et c'est pour ça probablement que la CAQ présente, soupçonnant, en tout cas les sondages leur indiquaient que le chemin était tout tracé pour qu'ils arrivent au pouvoir, c'est pour ça probablement qu'il y a autant de femmes et de femmes compétentes pour pouvoir effectivement fournir les postes de ministres. Plus de femmes attirent les femmes en politique. Il y a un effet d'entraînement. C'est donc très positif de voir ce mouvement-là. Est-ce que ça prend encore des quotas? Parce qu'on a beaucoup parlé des quotas féminins en politique. Es-tu pour, toi, les quotas?
Moi, j'ai de la misère.
Pour ah oui?
pour une raison, c'est que j'estime que, oui, il en faut de plus en plus, et une répartition autant
oui.
que possible, la plus paritaire possible. Mais à la compétence aussi. Quand je
oui.
dis la compétence pour le même poste,
oui, mais le jour
il ne devrait jamais y avoir de discrimination
non, effectivement,
pour une compétence à un poste.
Le jour où il y aura autant de femmes incompétentes que d'hommes incompétents, la parité sera atteinte.
Non, mais elle
c'est
est
vrai.
Bonne, celle-là.
De l'homme incompétent, il y en a aussi. On en a vu, on peut sortir des noms,
ça,
on va se taire.
Tout à fait.
Mais quand même.
Et tu as raison, parce que la politique n'est pas une science exacte.
Tout à fait.
Alors,
tout à fait.
Alors que, je te donnerai juste oui. un exemple de parité. On se pose pas la question à savoir si c'est un homme ou une femme qui pilote un avion dans un cockpit. Parce qu'on les voit plus maintenant,
les
membres
ouais,
d'équipage. Ouais. Alors, il m'arrive, pas régulièrement, je voyage pas tant que ça, mais qu'elle ne fut pas ma surprise. À un moment donné, j'ouvre la porte, elle vole aux États-Unis, deux femmes à l'intérieur du cockpit. Est-ce que je me suis posé la question avant de monter à bord, à savoir si c'était un homme ou une femme?
Effectivement. Mais ça m'inquiète que tu aies pu ouvrir la porte dans un cockpit, dans un vol pour les États-Unis.
Non,
fermons la
parenthèse. Non, c'était pas en vol, c'était à l'atterrissage.
Okay, j'ai eu très, très peur. Mais revenons à nos quotas féminins. Moi, je serais plutôt pour quelques mandats, parce que tout ce qui concerne les droits des femmes, c'est toujours extrêmement fragile. C'est pas parce qu'on approche d'une zone paritaire en ce moment ou qu'on atteint la zone paritaire que, advenant un gouvernement beaucoup plus moralement conservateur, que ce serait la même chose. Je pense que pour un certain temps, ça prend des quotas, mais en tout cas, on est en train de progresser. Et la dernière question que je me posais avec ce nombre de femmes élevé en ce moment, est-ce que les femmes font la politique différemment? Est-ce qu'elles changent la politique? Les politiciennes d'une autre époque, qui ont 65 ans et plus aujourd'hui, disaient souvent, interviewées, oui, nous, les femmes font une politique plus empathique, ont plus de gentillesse, sont plus humaines. Je ne pense pas. La politique, ça concerne le pouvoir. C'est vif, c'est cruel, c'est rude. Je ne pense pas que les femmes font de la politique différemment, mais par contre, la force du nombre crée un réseau plus fort que les partis. Les femmes se parlent entre elles. Ça change la donne structurelle également, les horaires, les infrastructures, des garderies, par exemple, à l'Assemblée nationale. Ça forme aussi des modèles pour les jeunes femmes, et on le voit avec les statistiques. Ça ouvre vraiment la porte, et pour les jeunes hommes aussi, qui sont différents de manière générationnelle, qui sont différents de leurs aînés, je trouve que ça a un effet d'entraînement. Mais cela dit, ce n'est pas par nature et par vertu que les femmes font de la politique différemment.
Oui, mais si on veut avoir un bel exemple d'un pays qui est en avance et depuis longtemps, c'est l'Islande. L'Islande avait un gouvernement féministe.
Oui, bien sûr.
Il y a 20 ans à peu près.
Mais je te parlerai de Margaret Thatcher également, qui était une femme au pouvoir. Et
Angela Merkel.
Absolument. Alors, c'est pas par nature. On n'a pas des qualités.
On a failli avoir une présidente américaine.
On a failli. Effectivement, si on se fiait au nombre de votes, on a failli. Hey, parlons pollution.
Alors, c'est épouvantable. Surtout parce que j'ai fait souvent des entrevues sur ce que j'appelle les continents de plastique.
Oui.
Qui tourne
ouais,
dans l'hémisphère
ouais,
sud et dans l'hémisphère nord, dans nos océans, c'est effrayant.
C'est effrayant. Je voulais en parler parce que demain, à Halifax, il va y avoir une réunion du G7 où les ministres responsables des océans vont parler d'un plan d'action et de l'impact des déchets en plastique. Et c'est d'une tristesse infinie, tout ce qui concerne la pollution au plastique. Je vais te donner des chiffres, mais c'est peut-être un des aspects, étrangement, le symbole d'une prise de conscience environnementale. C'est quand on parle de hausse des températures, quand on parle de dérèglement du climat, de gaz à effet de serre, de réfugiés climatiques, ça demeure abstrait ou alors on ne veut pas voir ce que c'est. C'est vague, on est trop concentré sur notre confort. Mais quand on parle du plastique, ce sont des images qui choquent. Ce fameux continent de plastique, ces vortex de plastique qui forment des masses invraisemblables, les pailles qu'on jette tous les jours au rebut comme ça et qui mettent de 200 à 400 ans à se décomposer.
Ah,
les pailles en plastique qu'on utilise quotidiennement, ça fait image et on y peut individuellement et collectivement, on y peut quelque chose. Donc, c'est peut-être, je crois, par là qu'une prise de conscience environnementale va se faire. Les chiffres, donc 1 million de bouteilles d'eau achetées par minute dans le monde, 2 millions de sacs à usage unique distribués par jour dans le monde, 57 millions de paille en plastique par jour au Canada. Les continents de plastique que ça forme, parce que 80 % des déchets qui se retrouvent dans la mer viennent des terres, viennent des continents. Il y en a à peu près 5 dans tous les océans. Enfin, il y en a dans chaque océan. Mais celui du Pacifique Nord, au-dessus d'Hawaï, un tiers de la surface des États-Unis. Et ce qui est hallucinant là-dedans, c'est que c'est pas des tas de plastique qu'on pourrait enlever, retirer de la mer. Ça se dissout et ça devient des microparticules de plastique. Donc, ça forme une soupe et c'est à peu près impossible à nettoyer. Il faut donc agir au départ et c'est là que c'est un enjeu politique. On y peut quelque chose individuellement, en changeant notre consommation, en faisant pression. Quand on va acheter notre café glacé l'été, là, est-ce qu'on est obligé de prendre une paille? Est-ce qu'on on peut demander aux commerçants, arrêtez, rendez-vous compte de ce que ça veut dire. Un peu partout, d'ailleurs, on commence à interdire les sacs en plastique. En Dominique, on a interdit tout le plastique à usage unique. Le 1er janvier 2019, ça commence. C'est quand même quelque chose.
Alors, veux-tu une observation? D'abord, premièrement, félicitations ici à notre entreprise.
Oui, gourde réutilisable pour l'eau, c'est formidable.
Il n'y a plus de bouteilles de plastique.
Mais tu vois, quand je te dis qu'on y peut quelque chose, on y peut quelque chose.
Et ça nous prend combien de temps? 2 minutes de plus pour aller remplir notre bouteille le matin en verre, réutilisable, pas de bouteille de plastique.
Et on sociabilise autour de la machine à eau.
Oui, c'est comme l'ancienne machine à café.
Exactement. Mais je te dis, on y peut avec des gestes individuels, puis en se comportant différemment. On dit très bien que acheter, c'est voter. En achetant différemment, en achetant en vrac, en se présentant chez notre boucher avec des conteneurs réutilisables, ça a l'air farfelu aujourd'hui. Dans 2 ans, ça va être la norme, je te le dis.
Bon, alors ça, c'est très bien. Ce que tu viens de dire, c'est très bien. Mais est-ce que je peux te faire une observation sur ce qui n'a aucun bon sens en termes de plastique? Tu achètes un objet très petit, mettons, électronique.
Oui.
Et bien, toi, j'ai Best Buy.
C'est une horreur, c'est une horreur.
J'ai Best Buy, ben oui. N'importe où. Je dis Best Buy, mais c'est tout... As-tu vu l'emballage?
Ça n'a aucun sens.
Pour, par exemple, une petite clé USB
oui.
ou une clé SD. Ça n'a pas de sens.
Oui.
C'est du plastique autour. Tu risques de te couper en passant oui. en ouvrant ça.
Mais il va falloir...
Qu'est-ce que c'est que cette obsession?
Ça n'a aucun sens. C'est une obsession et ça cause vraiment des dommages invraisemblables. Et c'est là que nous, par notre force de consommateur, on peut se plaindre. Mais les entreprises aussi... La question du plastique va tellement devenir cruciale et symbolique, à défaut qu'on parle de gaz à effet de serre, que les entreprises elles-mêmes, tous les Tim Hortons, les Starbucks de ce monde, les Best Buy, vont vouloir un jour être reconnus comme ceux qui emballent moins, ceux qui ne distribuent mm-hmm. plus de paille, ceux qui présentent une image verte. Donc, ils vont, j'imagine, sous notre pression,
mais j'ai hâte
avec
de voir
notre
ça.
Appui, mais ils vont arrêter. J'ai
pour
vraiment
la restauration, je pense que c'est plus facile parce que oui. c'est déjà amorcé. Pour ce qui est de la consommation générale, les jouets emballés, ça n'a aucun sens.
Ça n'a
aussi.
Aucun sens.
Mais tu feras l'expérience. Va t'acheter le moindre petit appareil électronique. L'appareil est minuscule.
Oui.
Ça peut être une carte et tout ça.
Oui.
Il y a tellement de plastique autour.
Ah, c'est complètement
mais ça, tu
ne
peux
fou.
Pas refuser l'emballage. Tu comprends?
Non,
tu
mais
peux,
c'est pour ça qu'il faut faire des pressions.
Alors, moi, je refuse le sac. Avez-vous besoin d'un sac? Et je dis tout
non.
le temps, avec un emballage semblable.
C'est clair.
Mais j'ai pas besoin de sac.
C'est clair. Puis dans les supermarchés, il y a des supermarchés où on voit des bananes. Qui sont emballées naturellement, emballées dans du plastique, des noix de coco emballées dans du plastique. Voyons. Bref, grosse sensibilisation
oui.
à faire, mais pensez au continent de plastique
oui.
et je vous jure que vous allez voir vos emballages d'un tout autre œil.
Oui, c'est emballant de désemballer.
Exactement.
Merci beaucoup, Marie-France.
À demain, Paul.